Bienvenue dans Libre de lire, l'émission qui parle littérature, présentée par Maëva Felt. Aujourd'hui, on va parler de deux livres, « Ce que le jour doit à la nuit » et « La cause des femmes ». Je suis accompagnée de Léo, notre technicien. Bonjour Léo.
Bonjour Maëva.
Je vais vous parler du premier livre, Ce que le jour doit à la nuit, écrit par Mohamed Moulesseoul. C'est un écrivain né en Algérie en 1955. À l'âge de 9 ans, son père, officier de l'ALN, l'envoie à l'école des cadets de la Révolution. Il devient sous-lieutenant après avoir terminé l'académie militaire de Churchill et sert dans l'armée algérienne pendant 25 ans. Durant la guerre civile des années 1990, il est responsable important de la lutte contre l'AIS et le JIA, principalement en Oranie, atteignant le grade de commandant. En 2000, il prend sa retraite militaire pour se consacrer à l'écriture. Il écrit d'abord sous son vrai nom, puis il utilisera le pseudonyme Yasmina Kadra, qui sont les deux prénoms de son épouse. Les livres de l'auteur ont touché plusieurs millions de lecteurs dans le monde. Ses livres ont été adaptés au cinéma, au théâtre, en bande dessinée, en chorégraphie. Ses romans sont traduits en 53 langues et édités dans 56 pays. Ce sont au total 38 livres et nouvelles que Yasmina Kadra a édités de 1984 à 2022, pour lesquels il obtiendra de nombreux prix littéraires dans le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du roman « Ce que le jour doit à la nuit » édité par l'auteur en 2008. Le livre aborde l'Algérie coloniale de 1930 à 1962, la guerre pour l'indépendance de l'Algérie et le départ des Pieds Noirs. Il a reçu plusieurs prix, celui du meilleur roman France Télévisions en 2008. Il est également élu meilleur livre de l'année 2008 par le magazine Lire et le prix des lecteurs corses en 2009. Il a ensuite été adapté en film en 2012, réalisé par Alexandre Arcadi. Le film reste fidèle à l'histoire du livre, mais certains passages ont été modifiés. Léo, nous vous écoutons pour le résumé de Ce que le jour doit à la nuit.
Algérie, année 1930. Les champs de blé frissonnent. Dans 3 jours, les moissons, le salut. Mais une triste nuit vient consumer l'espoir. Le feu, les cendres. Pour la première fois, le jeune Younes voit pleurer son père. Confié à un oncle pharmacien dans un village de l'Oranais, le jeune garçon s'intègre à la communauté Pieds Noirs. Noue des amitiés indissolubles et le bonheur s'appelle Émilie. Une princesse que les jeunes gens se disputent. Alors que l'Algérie coloniale vit ses derniers feux, dans un déchaînement de violence et de trahison, les ententes se disloquent. Femme ou pays, l'homme ne peut jamais oublier un amour d'enfance.
Merci Léo. Alors, tout au long du livre, on suit l'histoire de Younes, de son enfance en passant par son adolescence et lorsqu'il devient adulte. Sa famille est contrainte de quitter son domicile et vont donc partir à Oran. Le travail est dur à trouver et ils vivent dans une situation précaire. L'oncle de Younes propose plusieurs fois à son père de les aider financièrement, mais il refuse. Un jour, faute d'argent, Younes part vivre chez son oncle musulman et sa tante chrétienne. Ils tiennent tous les deux une pharmacie. Younes est rapidement inscrit à l'école et il est encouragé par sa tante à changer de prénom afin de mieux se faire accepter parmi les pieds noirs. Toute sa vie, Younes est tiraillé entre deux mondes et sent que parfois il n'est pas toujours le bienvenu. Il vit avec ses amis dans un beau quartier et voit en même temps la tristesse des siens, l'injustice et la guerre. Dans ce roman, la colonisation en Algérie et tout ce qu'elle provoque sont très bien racontés. Younes vit une histoire d'amour qui se mêle à l'indépendance de l'Algérie. Malheureusement, il y a des complications. Younes ne peut pas continuer cette histoire. Alors, est-ce que c'est une question de religion parce qu'elle n'est pas musulmane? Ça, je vous le laisse de découvrir. Concernant mon avis, tous les personnages sont extrêmement bien décrits et attachants. Même si le livre est romancé, on ne perd pas et on ne peut pas passer à côté de ce qui se passe en Algérie pendant cette période. Je pense que c'est important de le rappeler, de se rappeler de la guerre d'Algérie et tout le processus pour obtenir l'indépendance. Je vais vous lire un passage. Si seulement on avait quitté le bled de notre propre gré, se plaint Gustave, à deux doigts du coma éthylique. Mais on nous a forcés à tout abandonner et partir en catastrophe. Nos valises chargées de fantômes et de peines, on nous a dépossédés de tout, y compris de notre âme. On ne nous a rien laissé, rien de rien, pas même les yeux pour pleurer. C'était pas juste Jonas. Tout le monde n'était pas colon. Tout le monde n'avait pas une cravache contre ses bottes de seigneur. On n'avait même pas de bottes tout court, par endroit. Nous avions nos pauvres et nos pauvres quartiers. Nous laissés pour compte et nos gens de bonne volonté, nos petits artisans, plus petits que les vôtres, et nous faisions souvent les mêmes prières. Pourquoi nous a-t-on tous mis dans le même sac? Pourquoi nous a-t-on fait porter le chapeau d'une poignée de féodaux? Pourquoi nous a-t-on fait croire que nous étions étrangers sur la terre qui a vu naître nos pères, nos grands-pères et nos arrière-grands-pères? Que nous étions les usurpateurs d'un pays que nous avons construit de nos mains et irrigué de notre sueur et de notre sang? Tant qu'on n'aura pas la réponse, la blessure ne cicatrisera pas. Voilà, je vous conseille ce roman, il a une vraie morale et transmet de vrais messages. Vous pouvez le retrouver en format pocket à moins de 9 €. Voilà, je vous conseille ce roman. Il y a une vraie morale et transmet de vrais messages. Vous pouvez le retrouver en format pocket à moins de 9 € et fait précisément 437 pages. Nous allons passer au deuxième livre, La cause des femmes. La cause des femmes est éditée chez Gallimard en collection Folio, retrace le combat féministe de Gisèle Halimi. C'est une nouvelle édition revue, augmentée et annotée par l'auteur en 1992. Gisèle Halimi est née en 1927 en Tunisie et elle est décédée en 2020. Elle a été avocate, une militante féministe et une femme politique franco-tunisienne. Elle participait au débat sur les droits des femmes et de la justice sociale. Elle est connue pour avoir travaillé dans des affaires emblématiques telles que le procès de Bobigny en 1972 qui a mis en lumière la question de l'avortement en France. Gisèle Halimi a également joué un rôle essentiel dans la réforme des lois sur le viol et les droits des femmes en général. Elle était respectée et influente dans les domaines juridiques et féministes. Elle est la seule avocate à avoir signé le manifeste des 343 en 1971, un mouvement où des femmes déclaraient avoir subi des avortements et revendiquaient l'accès libre à cette pratique, alors illégale en France. Son avortement est raconté dans La cause des femmes. Elle a écrit 17 ouvrages et obtenu de nombreuses distinctions. Léo, nous vous écoutons pour le résumé du livre.
Le féminisme, c'est quoi? Ça existe? Et pourquoi faire? « Les femmes ont tout obtenu, répondent-ils. Et même répondent-elles, quelquefois. Et pour quel résultat? La solitude de fond de la féminité et la déroute de nos mâles devant leurs égales, la superwoman est épuisée. Quant au commun des hommes, sans le miroir grossissant que présentait à ses exploits masculins sa compagne d'antan, il se sent réduit de moitié. Donc grandeur nature. » Les femmes ont la responsabilité d'impulser une nouvelle dynamique de changement. Enfermée dans son rôle féminin, la femme ne mesure pas à quel point son oppresseur est lui-même prisonnier de son rôle viril. En se libérant, elle aide à la libération de l'homme. En participant à égalité à l'histoire, elle la fait autre. Cela ressemble fort à une révolution tranquille, mais forte et sûre de l'avenir. Le féminisme vient seulement de commencer sa longue marche. Dans 20 ans, dans 100 ans, il aura changé la vie.
Merci Léo. Alors tout le livre est poignant et révèle les nombreux combats du féminisme. Tous les travaux de Gisèle Halimi sur l'avortement, l'éducation sexuelle et la contraception. En lisant le livre, on se rend compte de la difficulté pour libérer les femmes, mais surtout l'importance du féminisme aujourd'hui, son rôle sur l'histoire et la libération qu'elle génère. Ce livre instruit et montre l'importance de la contraception. Avant, les femmes n'avaient aucun renseignement sur la contraception et encore moins sur la sexualité. Gisèle Halimi explique que l'avortement est seulement en dernier recours. Il y avait une forte inégalité entre les femmes qui avaient les moyens de se faire avorter à l'étranger et celles qui ne pouvaient pas, ce qui engendrait des avortements illégaux en France dans de mauvaises conditions qui étaient risquées pour la vie des femmes. Au cours de la lecture, Gisèle Halimi défend tous les arguments qui sont contre l'avortement avec des faits et des chiffres. Beaucoup pensent que légaliser l'avortement conduirait à une augmentation de l'IVG. Cependant, une étude montrait que les pays qui légalisaient l'avortement en comptaient moins que les pays qui l'interdisaient. Je pense qu'il est important de lire des livres sur le féminisme pour ne pas oublier les combats qui ont été menés pour libérer la femme. Je vais vous lire un passage du livre. Naître femme pour ma génération, c'était faire partie de la moitié de l'humanité, qui jusqu'à sa mort subirait toutes les discriminations, pour la seule raison qu'on ne naissait femme que pour le devenir, devenir femme relevée d'une condition objective dont l'essentiel était l'infériorisation et l'irresponsabilité, dans l'éducation, le travail, la politique, comme dans la sexualité, le mariage ou encore dans le langage, à la femme était assigné le statut d'un sous-individu. À l'homme et à la société, la liée des rapports de dépendance et d'inégalité. Quelquefois, elle cumulait, à cette discrimination originelle, elle ajoutait celle de la race, de la couleur, de la classe. Certaines femmes, mêlant vécu et réflexion, prirent conscience de ce fait objectif. Leur histoire de couple, l'injustice, la violence, l'humiliation subie au foyer comme au travail se recoupaient bizarrement dans ces récits de femmes entre elles. Je vous conseille le livre, vous pouvez le retrouver en librairie à moins de 10 euros et je crois qu'il fait moins de 300 pages. C'était Libre de lire, présenté par Maëva Feltz. Merci de m'avoir écouté et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.